VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manelakidza à ce micro. Au sommaire de cette édition du mercredi 4 octobre 2023, le républicain Kevin McCarthy est évincé de son poste de chef de la Chambre des représentants, une première dans l'histoire des États-Unis. Le président Biden appelle à une élection rapide du prochain chef de la Chambre des représentants. L'armée malienne fait mouvement vers le nord et la région de Kidal, fief de la rébellion séparatiste. Le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée est entré dans sa deuxième année mardi à Conakry. Ne manquez pas notre page sport. Pour l'instant, le journal. La Chambre des représentants a voté mardi pour destituer son président, le républicain Kevin McCarthy, exacerbant ainsi davantage les divisions internes au sein de son parti. Cette situation a plongé un peu plus le Congrès américain dans le chaos, quelques jours seulement après qu'un accord a été conclu in extremis pour éviter une fermeture partielle des administrations fédérales. Jean-Roger Bion.
C'est la première fois de l'histoire que la Chambre basse du Congrès américain prend une telle décision à l'issue d'un vote à 216 voix contre 210 initié par un petit groupe d'élus issus de la frange la plus conservatrice du Parti républicain.
La fonction de président de la Chambre des représentants des États-Unis est déclarée vacante.
8 élus républicains, de même que 208 représentants démocrates, ont voté en faveur de la destitution de Kevin McCarthy, fragilisé notamment par la majorité étroite dont dispose son parti à la Chambre, 221 sièges contre 212 pour les démocrates. Kevin McCarthy a déclaré aux journalistes qu'il n'avait pas l'intention de se représenter au poste de speaker.
Je crois que je peux continuer à me battre, peut-être d'une manière différente. Je ne me représenterai pas à la présidence, je laisserai la conférence choisir quelqu'un d'autre.
La Chambre des représentants devrait rester sans président pendant au moins une semaine, alors que plusieurs républicains ont dit qu'ils prévoyaient une réunion le 10 octobre pour discuter des possibles successeurs à Kevin McCarthy et qu'un vote interviendrait le 11 octobre.
Doing the right thing.
Faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Je ne regrette pas d'avoir choisi de gouverner plutôt que de faire des griefs. C'est ma responsabilité, c'est mon travail. Je ne regrette pas d'avoir négocié. Notre gouvernement est conçu pour trouver des compromis.
Les travaux de la Chambre se voient interrompus donc par la destitution de Kevin McCarthy, alors que le projet de loi permettant d'éviter un shutdown, adopté samedi au Congrès, ne prévoit le financement des administrations fédérales américaines que jusqu'au 17 novembre. La Maison-Blanche a indiqué qu'elle espérait que la Chambre des représentants trouverait rapidement un successeur à Kevin McCarthy.
Kevin McCarthy est donc tombé hier mardi de son perchoir de chef de la Chambre des représentants, victime de son aile droite. En novembre 2022, les républicains ont récupéré la majorité à la Chambre, mais elle ne tient qu'à un fil. Une poignée d'élus de la droite et dure, fidèle à Donald Trump, dispose d'un veto de fait. En janvier, son chemin vers le perchoir a été un calvaire. Ces derniers ont fait monter les enchères pendant 4 jours pour obtenir leur soutien. Il obtiendra finalement, après 15 tours de scrutin et une terrible concession, tout élu pourra désormais seul convoquer un vote pour le destituer. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, lui-même membre du Parti républicain, estime que McCarthy était vulnérable.
Ça va changer pas grand-chose. D'abord, il était très faible comme candidat. D'abord, il fallait 15 tours pour élire président de la Chambre. Je crois que c'est un faible... Il dirige pas très bien le parti républicain, donc je crois qu'il vaut mieux changer maintenant. Mais c'est l'extrême droite, c'est l'aile qui contrôle le parti républicain en ce moment.
Pourquoi les démocrates l'ont laissé tomber?
Ça m'étonne beaucoup, parce que pour les démocrates, je crois que son meilleur ami, c'est le républicain qui détient la majorité dans la Chambre. Ça m'étonne beaucoup que les démocrates n'ont pas voté pour lui. Je crois qu'ils ont fait une grave erreur. parce qu'il était disponible pour coopérer avec les démocrates et chercher des compromis. Donc, je trouve que les démocrates ont fait une grave erreur. J'ai peur qu'ils vont, trouver un candidat de l'extrême droite pour diriger, pour être président de l'Assemblée. Ce sera un peu une catastrophe, à mon avis, parce qu'ils ont passé tout le temps à chercher à trouver des crimes que Biden a fait, qu'il n'a jamais fait. Ce sera la lutte contre Biden au lieu de faire le travail nécessaire pour diriger le pays.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. La destitution de Kevin McCarthy ouvre une période de forte turbulence à la Chambre basse, débâcle politique inédite dans l'histoire des États-Unis. Et remplaçant doit être choisi la semaine prochaine. McCarthy a d'ores et déjà annoncé hier soir qu'il ne va pas se représenter, même si les règles parlementaires lui autorisent. Pour comprendre les implications que cela pourrait avoir pour l'avenir du Parti républicain à la Chambre des représentants, nous avons joint le professeur Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group.
Je pense que c'est assez difficile de savoir ce qui va se passer parce qu'il y a tellement de discussions et de tensions entre l'aile droite du parti et l'aile plutôt centriste du parti. Ils vont continuer à se battre de plus en plus et je pense qu'en plus le candidat Trump en profite pour marquer des points et essayer de jouer les uns contre les autres pour augmenter son avantage. Donc j'avoue que c'est assez difficile de savoir ce qui va se passer, mais je pense qu'effectivement ça va être assez sanglant, si on peut dire. Les démocrates auraient pu sauver McCarthy s'ils avaient voulu, mais ils ont pas voulu. Et là, maintenant, on a une situation qui est non seulement cassée entre les républicains et les démocrates, mais cassée parmi les républicains et aussi parmi les démocrates. Donc c'est assez difficile. On voit vraiment mal où ça peut aller. Je pense que c'est une crise grave quand même.
McCarthy, dans sa conférence de presse, a semblé blâmer les démocrates. Est-ce qu'il aurait été victime des décisions prises, notamment lancer une enquête contre Biden et aussi le fait d'écarter deux démocrates de leur commission?
Disons qu'il y a des petites vengeances qui se passent par derrière en ce moment. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Certainement. Mais le fait que McCarthy ait décidé de travailler avec son aile gauche pour attaquer le président Biden, effectivement, ça n'a pas plu aux démocrates qui l'ont laissé tomber au dernier moment. Donc c'est un des problèmes et je ne vois pas comment ça va être résolu rapidement.
Y a-t-il des conséquences potentielles pour l'agenda législatif à la suite de cette destitution?
Ah bah oui, certainement, parce que je vois mal. Il faut quand même que le speaker, c'est le speaker qui introduit les votes à l'Assemblée. Ça ne peut pas être voté sans que ce soit amené par lui. Ce qui est intéressant, c'est que le leader, le speaker, n'est pas obligatoirement quelqu'un de l'Assemblée. Ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur. J'ai même lu quelque part aujourd'hui que quelques personnes essayaient d'inviter Trump à être le nouveau speaker. Enfin, ça, c'était plutôt une plaisanterie qu'une réalité. Mais enfin, techniquement parlant, c'est possible.
Le professeur Jean-François Seznec, joint de la ville d'Annapolis dans l'État américain du Maryland. Le président américain Joe Biden a appelé dans la foulée à une élection rapide du prochain chef de la Chambre des représentants après la destitution du républicain Kevin McCarthy. Comme les défis urgents de notre pays ne peuvent pas attendre, le président espère que la Chambre élira de façon rapide un nouveau chef, a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche dans un communiqué. L'ancien président Donald Trump a fait une nouvelle apparition mardi devant le tribunal de Manhattan, où il est actuellement jugé pour fraude en lien avec l'évaluation de ses biens immobiliers. Le procès semble être l'occasion qu'il cherche à transformer en tribune, mais il a été fermement recadré par le juge en charge de l'affaire. Au Mali, un important convoi de l'armée a continué hier à progresser vers la région de Kidal, bastion de la rébellion Touareg, qui a repris les armes contre l'État central. Yacouba Ouédraogo.
Un élu local et un soldat dans la colonne ont indiqué que le convoi de plusieurs dizaines de véhicules se trouvait à Tarkent, à environ 200 km au sud de Kidal. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué sur les réseaux sociaux une attaque à l'engin explosif contre le cortège dans lequel se trouvent aussi, selon lui, des instructeurs russes. Un haut responsable militaire a signifié que le convoi devait se rendre plus au nord à Agelok et Tessalit, au nord de Kidal, sans citer cette dernière. La MINUSMA, qui doit quitter le Mali d'ici au 31 décembre, a commencé à rétrocéder ses camps aux autorités maliennes. Les rebelles estiment que ces camps devraient revenir sous leur contrôle. La MINUSMA prévoit de transférer les camps de Kidal, Agelok et Tessalit au cours de la dernière semaine d'octobre. Mais cela dépendra de l'arrivée de convois vides du Tchad, nécessaires au rapatriement du contingent de casques bleus de ce pays avec leur équipement, a indiqué la porte-parole de la MINUSMA, Fatoumata Kaba. Kidal a toujours été le fief de toutes les rébellions Touareg. En 2014, les rebelles ont infligé une déroute à l'armée malienne quand elle a tenté de reprendre cette ville.
En Guinée, le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 est entré dans sa deuxième année, mardi à Conakry. L'ex-président Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux répondent de leurs actes. Mohamedou Ouf.
Le procès a repris après les vacances judiciaires avec la suite de l'audition des témoins et celle de Mamadou Kali Diallo, un membre de la société civile. Il a raconté avoir été arrêté et torturé pendant plusieurs jours au camp militaire Alpha Yaya Diallo de Conakry, alors siège de la junte dirigée par le capitaine Dadis Camara à la suite des événements du 28 septembre 2009. Le témoin a réclamé que des peines exemplaires soient infligées aux coupables et que les victimes obtiennent réparation. Il s'en est pris à Moussa Tiekboro Camara, alors secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Il n'y avait pas plus féroce parmi les soldats de la junte, a-t-il dit. Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées, et au moins 109 femmes ont été violées dans un stade de Conakry et aux alentours le 28 septembre 2009 et les jours suivants, lors de la répression d'un rassemblement d'opposition par des membres de la garde présidentielle, des soldats, des policiers et des miliciens, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU. La durée du procès, initialement prévue pour durer quelques mois, reste indéterminée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo dans sa page des sports. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On commence avec le basketball. Plusieurs superstars américaines de la NBA candidatent pour une sélection aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.
LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, les déclarations d'intention en direction de Team USA se sont succédées, fédérées par le King LeBron James. J'ai discuté de cette opportunité autour de moi et si tout se passe comme prévu, je vais y être. C'est la seule chose que je n'ai jamais faite, assure le meneur des Golden State Warriors, Stephen Curry, quadruple champion NBA. Je vais jouer aux Jeux Olympiques l'année prochaine, lance Kevin Durant. Ces déclarations font naître les comparaisons avec la Dream Team des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, menée par Michael Jordan et Magic Johnson. Les États-Unis restent sur une campagne ratée lors de la dernière Coupe du Monde, disputée en Asie entre août et septembre, et achevée sur une triste quatrième place sans star. Le mystère demeure par contre quant aux intentions de Joel Embiid, le MVP de la dernière saison régulière. La vedette des Sixers aux trois passeports, Cameroun, France, États-Unis, a répété hier sa volonté de disputer les JO et promis de choisir entre ces trois pays dans les prochains jours.
Yacouba, suite ce soir des matchs de la deuxième journée en Ligue des Champions en Europe.
Manchester City, champion d'Europe en titre, est attendu sans crainte par Leipzig. Le PSG, sous pavillon Qatari depuis 2011, va découvrir l'ambiance de St. James Park à Newcastle, devenu propriété 10 ans plus tard des Saoudiens. Demi-finaliste l'année dernière, l'AC Milan se déplace à Dortmund, qui doit se relever après son revers à Paris 2-0. Le FC Barcelone veut gagner à Porto, adversaire le plus renommé du groupe H. Pour son 100e match sur le banc du Barça, Xavi pourra s'appuyer sur ses renforts portugais. Arrivé cet été, João Félix passé par le centre de formation de Porto et João Cancelo.
Et avant de nous quitter, parlons du Real Madrid qui s'est imposé hier à Naples.
Le Real Madrid a remporté le choc du groupe C en s'imposant 3-2 sur le terrain de Naples. Le Nigérian du Napoli, Victor Osimhen, a provoqué un pénalty pour son équipe. Le Bayern Munich a arraché la victoire sur la pelouse de Copenhague 2-1. Manchester United du portier camerounais André Onana, en crise de confiance, a chuté contre les Turcs de Galatasaray 3-2. L'Ivoirien Wilfried Zaha a marqué pour les Turcs. Mené 1-0 par Arsenal, Lens s'est imposé 2-1 face au club londonien et a fêté de la meilleure des manières le retour de la Ligue des Champions au Stade Bollaert après 21 ans de disette. L'Inter Milan a dominé le Benfica Lisbonne 1-0 à domicile.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba. De retour avec vous, Eric Manilakiza, vous suivez Le Monde aujourd'hui. Place au dossier du jour. En République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, a déposé sa candidature à la présidentielle du 20 décembre. Sur les marchés de la CENI à Kinshasa, il a déclaré « Notre pays va très mal ». Le peuple congolais vit dans une forme d'esclavage et qui ne dit pas son nom. Indignez-vous, résistez si votre vote vous est volé. Vous avez le droit de faire la révolution démocratique, a-t-il dit. Dans un entretien exclusif avec Eddie Isango de la VOA, le docteur Denis Mukwege donne les raisons de sa candidature.
La première motivation, c'est que depuis plusieurs années, les membres des sociétés congolaises ont toujours demandé si je pourrais porter ma candidature à la présidence de la République. Et aujourd'hui, j'ai répondu oui à l'appel de la société congolaise. Notre population vit dans une humiliation inacceptable. Comme Congolais, quel est le bonheur que je peux avoir si je dois avoir ces honneurs et des tapis rouges quand mon peuple est humilié? Comme un citoyen révolté, indigné, qu'il est temps de pouvoir s'exprimer.
En votre annonce faisant état du processus électoral qui est déjà vicié, mais vous y allez quand même.
Avec ce qui se passe en République démocratique du Congo, lorsque les textes réglementaires, y compris notre loi fondamentale, ces textes ne sont pas respectés. Lorsque nous sommes dans une situation où les droits humains ne sont pas respectés, lorsque nos ressources naturelles sont pillées, je crois que n'est pas aller aux élections, ça veut dire tout simplement qu'on laisse la voie libre à ce que ces systèmes d'oppression et d'esclavage puissent continuer. On sait comment la nomination des acteurs à la CENI a été faite. Elle n'était pas consensuelle. Nous savons très bien comment l'enrôlement a été fait. Nous savons également comment la loi électorale a été votée. Et il y a toute une série de mesures qui ont été prises qui ont montré que le pouvoir a préféré préparer la fraude. Malgré ça, nous y allons, puisque nous croyons que notre peuple n'est pas naïf et que notre peuple saura non seulement aller voter massivement, et ils ne vont pas aller voter pour leurs oppresseurs, ils vont voter les gens qui sont pour le changement, les gens qui sont pour la rupture. Et aujourd'hui, nous appelons ces peuples de ne pas seulement aller voter, mais aussi défendre son vote, être présent dans le bureau de vote, s'assurer que, en fait, la vérité des urnes sera cette fois-ci respectée.
Tout ce que vous faites en matière de médecine, mais là, c'est quand même le monde politique, tous les coups sont permis.
Et ma grande victoire sur moi-même, c'est renoncer à mon confort de médecin, de professeur, de chercheur, mon confort tout simplement, quelqu'un qui, jusque-là, suivait passivement la souffrance de sa population. Et aujourd'hui, je crois que j'ai accepté de pouvoir renoncer à ces conforts et de pouvoir tout simplement me battre avec mon peuple pour regagner, restaurer la dignité du peuple congolais. Et donc, quel que soit le coup, je crois qu'à partir du moment où j'ai accepté de renoncer à ce confort, eh ben, nous allons nous battre et nous savons que le peuple finit toujours par gagner.
Le docteur Denis Mukwege, candidat à la présidence de la RDC. Le docteur Mouvoudi est un spécialiste à la Banque mondiale qui a décidé de se concentrer sur sa première passion, les autres, en particulier la jeunesse. Il offre des formations en développement personnel et leadership basées sur sa propre réussite afin de booster et valoriser les talents du pays. Gina Niwa est allée à sa rencontre. Suivez.
La richesse de l'homme est dans l'homme. C'est comme ça que quand vous lisez l'histoire du Japon, vous lisez l'histoire de la Chine.
Au Congo Kinshasa, la jeunesse puise ses informations pour se développer à travers l'univers qui lui est proche. La famille, l'école, la rue, mais très rarement a-t-elle l'opportunité et les moyens de se former grâce à des coachs. Le docteur Michel Mouvoudi est passionné par l'encadrement de la jeunesse et offre des formations de développement personnel et de leadership gratuites à travers le pays.
Alors que les conditions nationales, les conditions internationales ne sont pas trop propices au développement humain, il est possible, notamment avec ce que l'on a vécu, de faire des efforts et d'arriver, n'est-ce pas, à pouvoir se développer, à contribuer positivement à la société.
Mettez-vous au centre de votre vie. Ne dites pas « ma vie dépend des élections, ma vie dépend de ce que va devenir le pays, ma vie dépend de ce que va devenir la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ma vie dépend si Joe Biden va rester ou pas ». Non, votre vie dépend de vous.
Issu d'une famille pauvre, Mouvoudi parvenait à payer ses études grâce au soutien scolaire rémunéré qu'il offrait aux enfants des patrons de sa mère. Devenu médecin, ses enseignements s'inspirent de ses efforts passés et de sa propre réussite et de la confiance en soi. Aujourd'hui, ce spécialiste principal en santé à la Banque mondiale s'investit dans cette jeunesse qu'il connaît bien et qu'il décrit comme la première richesse de son pays, la RDC. Plus de 5000 Congolais qu'il conscientise gratuitement sur la morale, l'éthique, la bonne gouvernance et la valeur de leur existence pour la communauté. Beaucoup sont appelés et beaucoup sont également élus. David Mbouyi affirme qu'il a enrichi son mental et transformé sa vision et ainsi ouvert son agence de télécommunication.
Comme vous dites, nous dit toujours que la première richesse que nous avons, c'est la vie. La vie, quand on est en vie, on peut tout faire, on peut tout réaliser. Alors Maestro Télécom, c'était d'abord une idée en tête. Et après, grâce à ses conseils, on a pu faire chair cette pensée, au fait. Voilà.
60% de la population de la République démocratique du Congo est âgée de moins de 25 ans et 19% de ces jeunes sont au chômage. Le docteur Mouvoudi donne de sa personne sans attendre aucune rémunération. Cependant, la reconnaissance n'a pas de prix pour lui.
Parce que je me dis à quoi ça sert être ce que je suis, dire à tout le monde que j'ai étudié, que je travaille à X et Y endroit, si autour de moi, c'est des gens qui me regardent comme un dieu, qui ne savent pas comment je suis arrivé à faire cela, qui se demandent quand est-ce qu'on sera aussi comme Dr Michel. Donc, transmettre aux autres et voir les autres revenir et dire « merci beaucoup, j'ai trouvé le chemin, que moi aussi je peux aider les autres », pour moi ça c'est un grand salaire.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les suites de la bataille budgétaire au Congrès américain après l'adoption d'une rallonge de 45 jours qui a permis d'éviter in extremis une fermeture du gouvernement. L'aile dure du parti républicain continue de réclamer des coupes sombres mettant en péril l'aide militaire à l'Ukraine, ce que l'administration Biden rejette. En attendant, les élus se préparent au prochain bras de fer en pleine saison des primaires et à un peu plus d'un an de la présidentielle. Que signifie la bataille budgétaire pour les politiques intérieures et extérieures des États-Unis? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Le 7 octobre sera célébrée la Journée mondiale du coton, une occasion d'explorer les opportunités d'accès au marché pour le coton et les produits liés, promouvoir des politiques commerciales durables et de permettre aux pays en développement de profiter davantage de chaque étape de la chaîne de valeur du coton. Mouhamadou Oumfa s'est entretenu avec Oumarou Balbare, économiste, spécialiste du coton et consultant international.
Alors il y a deux réponses à cette question. Il y a les revenus monétaires, qu'est-ce que le coton apporte? Si je prends juste l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on est à peu près à 3 millions de tonnes de coton produit qui va être égrené, c'est-à-dire on va avoir à peu près 1 200 000 tonnes de fibres qui seront malheureusement exportées et 1 million, on va dire 500 000 tonnes de graines de coton qui vont servir à l'industrie locale, la fabrication de l'huilerie, des aliments, du bétail et pas mal. Donc en gros, le coton rapporte de l'argent aux États sous forme de fiscalité. rapporte de l'argent aux acteurs, aux industries et aux autres opérateurs économiques, les transporteurs, les transitaires et un petit peu aussi à la fin aux agriculteurs. Il faut bien savoir que le coton, géographiquement dans un pays, il pousse plus au nord. Donc quand on a des pays africains qui ont un sud équatorial et un nord sahélien, ça fait un petit peu le lien entre le nord et le sud, parce que le nord fait le coton, le transporte vers le sud pour l'exporter, et ça fait un petit peu de la cohésion au niveau des pays, et ça construit l'économie, ça construit surtout l'agriculture du nord, parce que ça, il faut pas l'oublier, le coton est plus une culture structurante de l'agriculture dans les pays africains, tout comme il a été il y a 50 ans ou 100 ans, une culture, un produit structurant pour l'industrie textile dans les pays occidentaux et aujourd'hui en Asie.
Comment se fixer les prix du coton et comment est-ce qu'on peut aider les producteurs africains à gagner davantage?
Alors le coton est fixé sur ce qu'on va appeler le marché mondial, c'est-à-dire c'est toute l'offre d'une année. En ce moment, on connaît les stocks de coton qu'il y a pour la campagne écoulée et on connaît la demande en fibres de coton. Et c'est cette demande plus l'offre qu'il y a sur le marché qui permet de donner un prix d'équilibre du coton, qui va être le prix de référence à partir duquel les filateurs vont acheter et les producteurs vont vendre. Donc vous comprenez bien que pour influencer ce marché, il faut avoir un niveau de production conséquent. C'est ce que la Chine fait en faisant des stocks, c'est ce que les États-Unis font en produisant encore plus, et l'Inde aussi. Et donc l'Afrique, c'est 10%. Donc en fait, si l'Afrique veut influencer ce prix, l'Afrique puisse augmenter, accroître son rendement, accroître sa part dans la production globale, c'est-à-dire sa production. Et en ce moment, elle va pouvoir décider de comment elle reverse la partie de prix qu'elle arrive à reprendre vers ses agriculteurs. Et là, ça va être le boom pour la production cotonnière.
Alors, vous parlez d'augmenter la production pour pouvoir influencer les prix. Cette augmentation de la production passe, je l'imagine bien, par l'industrialisation du secteur. Comment réussit ce pari?
Je crois que la culture politique de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est focalisée sur la production du coton graine comme élément structurant de l'agriculture locale. C'était une chose qui était nécessaire il y a 50 ans. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce paradigme parce qu'il y a des pays qui, comme l'Asie, qui n'ont jamais produit du coton mais qui sont des grosses places industrielles du coton. Il faut que nous-mêmes, on investisse et qu'on puisse sortir de là, non pas en vendant de la fibre, mais en industrialisant, en transformant la fibre et en ayant plus de parts de valeur ajoutée sur le produit final qui, finalement, est le vêtement, que c'est pas la fibre.
Le président William Ruto se félicite de l'approbation par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une mission menée par le Kenya et visant à apporter la stabilité en Haïti, pays ravagé par la violence des gangs. Davantage avec Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi, et récit Yakuba Ouedraogo.
Les Kenyans sont divisés sur la question de l'envoi d'un millier de policiers kenyans pour aider à réprimer la violence des gangs en Haïti.
Il y a des pays beaucoup plus forts qui auraient pu intervenir en premier. Ces éléments criminels en Haïti, tout d'abord, je ne pense pas qu'ils aient besoin de la police. Ils ont besoin des soldats.
Je pense que la police kenyane est une force dont nous disposons. Nous avons confiance en elle. Il n'y a aucune raison de douter de ses capacités.
Le président William Ruto parle d'une mission cruciale pour son pays.
In our struggle, we always had friends.
Dans notre lutte, nous avons toujours eu des amis. Pas une multitude énorme d'alliés puissants, mais néanmoins de vrais amis, loyaux et déterminés.
The people of Haiti, our dear friends,
le peuple haïtien, nos chers amis, est toujours dans le besoin. Nous avons l'obligation morale fondamentale d'être son ami en nous tenant à ses côtés.
By standing with them.
Lors d'une visite au Kenya, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a fait l'éloge de ce plan.
Nous avons l'intention de travailler avec le Congrès des États-Unis pour fournir jusqu'à 100 millions de dollars de soutien et nous exhortons les autres membres de la communauté internationale à suivre l'excellent exemple du Kenya.
D'autres comme l'ancien secrétaire à la Défense du Kenya, Eugene Wamalwa, ne sont pas d'accord.
First of all, I mean, what interest would we have to be in Haiti?
Tout d'abord, quel intérêt aurions-nous à nous rendre en Haïti, un pays du tiers-monde situé à plus de 12 000 kilomètres de là? Beaucoup de nos officiers ne parlent même pas le français ou le créole et ne peuvent même pas communiquer avec les Haïtiens. Ce serait un problème, même en termes de formation et de préparation, pour s'engager dans une situation de sécurité aussi complexe où il y a une guerre urbaine avec des armes.
C'est hier que le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à l'envoi en Haïti de cette force multinationale, une mission réclamée depuis un an par le gouvernement du Premier ministre haïtien Ariel Henry et soutenue fortement par Washington.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Excellente journée à vous tous. Au revoir.